ったね。
Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kalomoudadi.
Bonjour à tous.
À Listen Winner.
Bonjour.
Guillaume Louis.
Absolument.
Robert Agou. Et Jean-Marc Guillaume Clavier. Et nos invités sont Laetitia Castro et Raphaël Persona. Merci Laetitia, merci Raphaël de prendre le temps de passer par nos studios, parce qu'on imagine bien qu'en étant au théâtre le soir, s'il y a bien un truc qu'on a envie de faire le matin, c'est autre chose.
Oui.
Que veut dire faire son boulot?
À savoir?
À savoir, je sais pas, chacun sa vie. Chacun sa vie. Justement, on l'imagine, ça c'est une partie de l'imaginaire. Vous êtes au théâtre en ce moment pour au théâtre de l'œuvre, et ce jusqu'au 30 avril pour jouer scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman. J'espère, Père Albert, que vous avez compris pourquoi nous avions invité Laetitia.
Mais bien sûr, Nangui. Et vous faites bien de me poser la question plutôt qu'au trio de mots du Bilbe, supposez vous épauler, qui serait bien incapable de vous répondre si ce n'est des bêtises insondables. Alors avant de poursuivre, Laetitia et Raphaël, bonjour à tous les deux. Je tiens à dire que quelques minutes avant l'émission, j'ai évité à Nangui un quiproquo fâcheux. Comme il me disait, Père Albert, c'est bizarre, j'ai jamais encore vu Laetitia Casta et Raphaël Personnaz dans scène de ménage.
Persona, pas Personnaz.
Oui, mais moi je suis savoyard, donc j'ai
oui,
justement, c'est vrai, on le prononce pas. On dit la Clusa, et pas la Clusaz. Mais bon.
On dit Chamonix.
Mais il prononce toutes les lettres, c'est comme le maréchal.
Et on dit Paris. Allez, allons-y.
Laetitia fait bien de remarquer qu'en France,
elle est là.
Il y a trop de femmes autour du Père Albert, il est troublé.
Non, j'en parlerai tout à l'heure des femmes. Leïla a raison, en français, on prononce toutes les lettres. C'est la devise du maréchal. S'il était là, il m'épaulerait.
Oui. Appelez-moi Najoui.
Donc, personnage. Non, personnage, je déconne. Et donc, j'ai dû préciser à Nagui, avec tac, que ces deux comédiens au talent et au charme remarquable n'étaient pas invités pour la célèbre série du M6, mais pour nous présenter Scène de la vie conjugale, une adaptation théâtrale très réussie du célèbre film de Bergman. Ah oui, Boris, c'est un pote à enchaîner Nagui. Que j'ai dû reprendre à nouveau en lui précisant qu'il s'agissait d'Ingmar Bergman, le cinéaste suédois. Une révélation pour Nagui, persuadé que la Suède n'avait jamais produit d'autre génie que Zlatan Ibrahimovic. En quelques mots, pour lui sauver la mise, je fais alors à Nagui le pchit de cette pièce, que je vais refaire pour nos fidèles auditeurs.
Oh oui.
Marianne et Johan sont mariés depuis 10 ans et ont 2 enfants. Leur couple est en apparence uni. Pourtant, un malaise s'installe. Initialement, Marianne se fait une haute idée de l'attachement amoureux, tandis que Johan ne se satisfait plus de ce qu'il ressent comme une routine confortable, mais sans surprise. Avec le temps, il pourrait chanter. Quant à Marianne, initialement fragile, voire soumise, elle va pourtant se révolter, découvrant les pouvoirs de sa sensibilité face à l'instabilité de son mari. Le dialogue tourne vite aux rancœurs réciproques et cette confrontation vire même à la baston en une symétrie inverse et désespérée de l'acte amoureux. Ça, c'est pas mal comme forme.
Gardez-la pour plus tard.
Comment ces deux êtres déboussolés pourront-ils résister à l'usure du temps et trouver l'apaisement, voire renouer avec la félicité passée? Vous le saurez en allant assister à cette cruelle autopsie d'un couple en marmelade au Théâtre de l'Œuvre. Pour ma part, cette pièce m'a passionné. Même si mon vœu de célibat m'interdit toute relation charnelle avec la femme, cette boule de vis, je n'ai jamais vécu un couple, il faut le savoir, si ce n'est avec mon ami, l'abbé Jacques Facial, je partageais jadis la même cellule au Grand Séminaire. C'était un peu austère, mais c'était bon. C'était très austère, mais c'était bon. J'ai changé de soutane. Néanmoins, si j'avais un conseil à donner à un homme désireux d'échapper à la routine conjugale, comme c'est le cas de Jean dans la pièce, je lui dirais de reprendre à son compte la petite annonce passée jadis par Pierre Dac, échangerait femme de 40 ans contre 2 de 20. Enfin, à tous les couples qu'unissent les liens sacrés du mariage, je rappellerai qu'au lieu de se prendre le chou et le reste dans des corps à corps libidineux qui me dégoûtent, il ferait mieux de pousser leur lindeau bourré de chiards en se disant qu'avant tout ils sont un papa, une maman, un papa, une maman. Voilà, amen et bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bon, quoi rajouter de plus?
revenez au pitch.
Je crois qu'on y est, ouais.
C'est
ouais,
très gênant, très gênant. En effet, tout va bien dans le couple et tout va bien dans la mise en scène, parce que je tiens à dire quand même qu'il faut saluer aussi la mise en scène avant de parler de votre jeu à tous les deux. Oui, parce que ça démarre, vous êtes sur scène, c'est l'adaptation donc d'un film, et ça commence par des images projetées, comme une espèce de télématon. Vous êtes en gros plan comme ça sur une grande toile, et c'est une espèce de dialogue et de ping-pong verbal où on comprend que tout va bien dans le couple, que vous êtes heureux, que visiblement le mâle est plutôt dominant, que l'épouse est plutôt en retrait, très amoureuse, totalement
douce,
amoureuse,
effacée.
Oui, et même vous déclarez à nouveau votre flamme malgré les années de vie conjugale, et on sent que lui est plutôt imbu de sa personne. Au début, vous êtes totalement en admiration et en déclaration d'amour.
Johan est beaucoup plus sûr de lui que Marianne. Marianne, elle a du mal à parler, elle a du mal à dire réellement, à exprimer ses désirs. Elle est effacée complètement derrière son mari.
C'est ça, elle vit sa vie à travers son regard et son mari.
Voilà, ouais. Exactement. D'ailleurs, elle dit un moment dans la pièce que c'est lui qui pensait à sa place et qui arrivait à exprimer ce qu'elle ressentait.
Et moi, je vois pas le personnage de l'homme, de Raphaël Persona, si négatif, parce qu'en fait, il prend...
J'ai pas dit négatif,
non, parce que
il est très sûr de lui.
Il est assez heureux d'être qui il est, mais il est dans l'humour aussi, il y a une forme d'humour, en tout cas, vous me direz, Raphaël, si je me trompe, et surtout, il prend la place que Marianne laisse de toute façon.
C'est bien vu, ça. Je suis assez d'accord avec ça.
C'est un point de vue de femme soumise, c'est honteux ce que tu viens de faire.
Non, je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire que s'il a pris cette place aussi, c'est qu'on lui a laissé le champ pour le faire. Et cet humour, ce cynisme, et son côté tête à claque et un peu une défense aussi, parce qu'il a conscience, tout comme le personnage de Marion, il n'y a pas de raison.
C'est bien, vous progressez.
Merci mon père. Que leur couple est en train de se déliter. Alors lui, on ne va pas tout révéler, mais a choisi la Dolce Vita, a choisi de partir...
La Villa Médicis.
Voilà, ailleurs.
Non mais on ne va pas tout révéler. Le film a déjà été diffusé, donc on connaît l'histoire.
Ouais.
Ça, c'est un grand succès, non? C'est une référence, un film culte.
Ben oui, mais moi je ne l'ai jamais vu.
C'est vrai?
Ouais.
Et au départ, c'était une série télévisée.
Exactement.
Est-ce que ça a été une série qui est devenue un film et qui a même, malheureusement, créé de nombreux divorces?
Une vague de divorces. Alors, Safi Nebbou, le metteur en scène, nous a dit ça, ouais. En effet, que la série a été diffusée en 73, a été vue par à peu près la moitié de la Suède, ce qui est pas mal comme audience. Et en effet, qu'il y a eu à l'époque, bon, alors c'est une autre époque, et puis c'est un autre pays, je crois que il y a quand même une chape de plomb sociétale, et qu'il y a eu, en effet, une vague de divorces. Pareil au théâtre, tous les soirs, on entend des gens qui se fritent quoi à la fin.
Ah ouais.
J'imagine bien que des couples, en tout cas, peuvent se regarder et puis il y a une espèce d'identification, c'est-à-dire que chaque femme se demande si elle ressent ce que le personnage de Laetitia Casta ressent. Chaque homme se dit est-ce que moi je suis dans cette optique-là. Et le démon de, alors je ne sais plus à quelle heure il est. Est-ce qu'il est à midi, est-ce qu'il est à minuit, est-ce qu'il est en tout cas ce démon qui gratte de se dire oui tout va bien dans le couple, on a des enfants, on est heureux en amour, mais est-ce que la monotonie ou en tout cas le rythme de ce couple-là me va? Est-ce que je vais chercher mieux ailleurs?
Ouais, et ils sont tous les deux, Marianne et Johan, dans ce questionnement-là, ces deux solitudes face à l'amour. C'est vraiment une histoire d'amour sur 20 ans, ces deux personnages qui s'aiment profondément, mais qui savent pas comment faire avec ça.
Sur la durée, ouais.
Mon personnage dit que, au point de vue des sentiments, on est des illettrés, qu'on sait pas quoi faire, qu'on nous apprend pas. Mm-hmm. Et en effet, c'est deux solitudes comme ça qui ont du mal à se parler parce que ils veulent pas s'avouer que finalement ils s'ennuient. Mais c'est quand même leur constat, c'est le constat que chacun fait.
Et les personnages vont totalement évoluer, c'est-à-dire que l'assurance avec laquelle le mari peut être au début et la soumission, je ne sais pas quel terme employer.
Oui, c'est une soumission, je dirais, elle est plus dans un état de... Elle dissimule les choses plutôt. C'est une fausse soumission. Et Marianne, elle a quelque chose comme les femmes, animal, instinctif. Elle sent quelque chose, elle va projeter elle-même son fantasme de se dire est-ce que finalement j'ai réellement envie de vivre cette vie-là? Mais elle va poser des questions à Joanne, mais au fond, ce sont ses questions à elle. Donc il y a un caillou dans la chaussure, elle va essayer de sortir ce caillou. Et puis finalement, Joanne va finir par faire éclater une vérité qui est la sienne, hein, qui est son histoire. Et ça va permettre à Marianne, finalement, d'avoir peur d'affronter la solitude sans Joanne, la vie sans Joanne, elle va se révéler.
C'est
elle,
ça,
elle va,
c'est
elle va se révéler.
Et c'est elle
va...
qui va prendre finalement le.
Sa vie en main, oui, tout à fait.
Ouais. Et qui va être plus forte, et lui qui va revenir la queue entre les jambes, on va dire.
C'est terrible. 6 mois.
Finalement, quelque part, Marianne avait peur de lâcher les chevaux, et puis une fois qu'elle les lâche, elle ne peut plus retenir. Elle ne peut plus rien retenir.
Oui, et au-delà de l'identification à travers les sexes, moi je trouve en effet ces deux solitudes, ces deux personnages. Donc moi je ne me suis pas forcément identifiée au personnage de Marianne. Parce qu'on voit qu'elle est aussi issue d'un milieu où tout est très posé, où on ne dit pas les choses, les rapports qu'elle a avec ses parents, bah, quelque part c'est un calque assez intéressant pour les rapports qu'elle entretient dans son couple. Donc elle est, quand on dit que le personnage de Raphaël revient la queue entre les jambes au bout de 6 mois, finalement...
Après avoir trompé, après être parti pour...
Après avoir découvert un autre amour, et voilà, mais qui n'est pas sans doute aussi fort, finalement...
Qui était que physique peut-être, pardon, hein, parce
oui,
que
c'est
la
possible.
Manière dont il en
c'est
parle...
C'est déjà pas mal, c'est... Mais attention,
Raphaël, vous êtes à l'antenne.
Il en manque profondément de cet amour physique. C'est un de leurs problèmes qu'ils abordent d'ailleurs frontalement.
On a plus de rapport sexuel.
Il n'y a plus de sexe entre eux.
Parce que le sexe est en deuxième plan, mais extrêmement présent tout au long de la pièce, en étant justement monotone au début. Lui, il a envie de vivre une aventure peut-être uniquement sexuelle et plus si affinité. Et quand ils reviennent ou quand ils se revoient après cette tromperie ou cette rupture, c'est à nouveau le sexe qui devient peut-être le seul atome crochu qui leur reste. Ouais. Et même là, on verra à la fin si ça marche ou si ça marche pas.
Oui, c'est pour ça, moi je vois même pas de l'infidélité. Je vois simplement une sorte de désert de tendresse, de toucher, de corps en fait. Et tout d'un coup, l'un va devoir...
T'appelles ça de la tendresse, toi.
Non, c'est que on imagine bien que c'est peut-être compliqué d'avoir une relation maritale, durable, sans relation sexuelle, et que c'est quelque chose qu'ils se réclament l'un à l'autre, mais qu'ils ne peuvent pas se donner.
Ouais. Et c'est de la faute ni de l'un ni
mais
de
non,
l'autre.
C'est
comme ça, c'est passé malheureusement, et il faut juste se l'avouer. Ouais.
C'est donc au théâtre, en ce moment au théâtre de l'œuvre, joli théâtre qui a été récemment repris par François-Xavier de Maison, avec un bar extrêmement accueillant et quelques cuvées très intéressantes.
Je dis que
pour l'after, et c'est bien de pouvoir boire un coup et de grignoter quelques spécialités.
Mais on vous y voit avant aussi.
J'étais avant aussi. Ah ouais, merde. Tu m'as vraiment gueulé alors. C'est donc au théâtre de l'œuvre jusqu'au 30
avril. Pendant la pièce, il dort.
Jusqu'au 30 avril, pas du tout. Avec Laetitia Casta et Raphaël Persona, ça s'appelle Scène de la vie conjugale. Et ils sont avec nous juste à l'ouïe.
La boule du jour. La vie.
Aux oreilles, Léla, on sifflait quand on vous annonçait la venue de Laetitia Casta et de Raphaël Persona.
Oui, et quand je pense à vous, Laetitia, je pense à une artiste française, Arletty. On est en 1960, Arletty fait son grand retour sur scène après des années d'absence, et pour cause, elle a été arrêtée après la libération pour avoir aimé un officier allemand.
Je suis apolitique. Napoléon a dit, la politique, c'est le destin, ben moi, c'est pas le mien. Ça, c'est sûr.
Vous croyez ?
Ah oui.
Vous voulez pas en dire plus loin.
Sur la politique ? Oui. Non, je ne vote pas, alors, c'est déjà pas... Si je prends pas de responsabilité.
Si vous aviez à recommencer votre vie à l'éthique, vous ayez le pouvoir d'effacer certains épisodes, lesquels effacer ?
Les effacerai pas.
Aucun ?
Je bifferai rien, je gommerai rien.
Recommenceriez tel quel ?
Toute la vie, pareil.
Alors lors de son procès, elle aurait répondu au juge « Si vous ne vouliez pas que je couche avec les Allemands, fallait pas les laisser entrer ». Donc on connaît d'autres phrases assez célèbres ou apocryphes, on ne sait pas exactement d'Arletty, hein, sur la nationalité de son postérieur, on va le dire comme ça élégamment. C'est un personnage haut en couleur, j'ai visionné toute une archive où on la voit, c'est vrai, elle a une sorte de rapport à la vie qui est très distancié, assez détendu, et elle dit clairement « Je ne regrette rien », même si elle a été quand même un peu pointée du doigt après la libération. Vous avez incarné ce personnage dans un téléfilm, Arletty. Est-ce qu'on s'en
elle
défait...
était même venue nous en parler.
Absolument. Est-ce qu'on se défait facilement d'Arletty quand on l'a quitté? J'ai l'impression que c'est un personnage qui est très fort et qui raconte beaucoup de choses de la vie d'une femme.
Ce qui est très beau dans un personnage comme ça, et ce qui est très émouvant, c'est sa liberté, en fait. Une liberté de penser, une liberté de vivre. C'est une femme si pétillante que de pouvoir jouer ça, c'est comme si, si vous voulez, on vous donnait une palette avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Et c'est très agréable à faire. Non, mais c'est un exemple.
Ouais, vous la prenez comme un exemple.
Un exemple, ouais. Mais tiens, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne et visionnaire. Après, c'est marrant, au moment de la promotion de ce film, des gens m'ont carrément parfois un peu agressée et comme si d'un coup...
Si vous la défendiez.
Encore, comme s'il y avait encore un tabou. Oui. Finalement, on la connaissait pas très bien, Arletty. On avait une idée de son histoire comme une traître. Mm-hmm. Mais il faut savoir qu'Arletty a fait libérer des gens... Elle était à la fois, elle était à la fois résistante.
Résistante, c'est beaucoup dire. Parce que l'homme avec qui elle avait une liaison, c'était von Schnuppnagel. C'était quand même un général très important de l'état-major allemand. C'était pas n'importe qui. C'était un homme qui faisait arrêter des résistants. Il y a aussi.
Grâce à son histoire d'amour, elle en a fait libérer avec lui.
Bon, bien sûr.
Il l'a aidé.
C'est ce que certains ont prétendu aussi. Mais c'est pour ça que c'est aussi chaud. Moi, j'adore Arletty. Je connais toutes ses chansons, par exemple.
Mais vous voyez, c'est marrant la réaction. Vous voyez, à un moment, j'ai dit, mais attention, c'est pas moi qui ai couché avec l'allemand. Hein. J'ai dû calmer, mais.
Non, je parle d'Arletty.
C'est intéressant parce que c'est dans l'histoire, c'est véridique. Cet Allemand avec qui elle a eu cette histoire d'amour a aidé Arletty à libérer les personnes.
Ouais, il a aidé, mais il en a arrêté beaucoup d'autres. Donc c'est là qu'il y a une ambiguïté.
Mais c'est le même genre de débat qu'on peut avoir sur Céline, par exemple,
qui est un immense écrivain, une ordure, qui a dénoncé nommément des gens, notamment un médecin à Meudon, dont il a pris la place, qui est un médecin juif.
Pourquoi je vous posais la question sur Arletty, parce que
on peut pas nier ça non plus.
Il faut cloisonner. Il faut cloisonner.
Par moment, il a fait la guerre. On sent qu'il était. C'est insensible.
Non, mais c'est des sujets.
Oui, mais est-ce qu'on peut distinguer, est-ce qu'on peut distinguer et séparer l'œuvre de celui qui l'a porte?
Vaste question, je peux pas répondre.
En tout cas, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que je sais bien qu'Arletty, à chaque fois, ne laisse pas insensible.
Non, mais Sacha Guitry, il y a des débats comme ça sur plein d'artistes.
Elle était très drôle.
Et puis, il se passerait quoi avec les artistes aujourd'hui, si les nazis débarquaient aujourd'hui? Il se passerait quoi?
C'est marrant ce que vous dites, parce que ça me fait penser, en Angleterre, il y avait un bouquin qui avait un grand succès. C'est un écrivain qui avait imaginé, si les Allemands nous avaient envahis, qui aurait collaboré
en Angleterre.
C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Non, mais c'est des sujets passionnants, parce qu'ils sont très contradictoires.
Non, ce qui est par exemple très paradoxal, c'est d'agresser une comédienne qui incarne un personnage comme si...
La
promotion... Non, c'est pas agressé,
vous avez un sentiment de malaise.
Il y avait quelque chose de tabou,
un vrai
tabou.
Oui, bien sûr.
Et c'est là où... Enfin, j'ai trouvé Arletty incroyable, c'est que elle a voulu vivre son histoire d'amour.
Mais regardez à l'occasion de cette archive, en effet, on voit que quoi qu'il arrive, elle a quand même été interdite de tourner.
Elle a assumé entièrement cette histoire.
Elle a complètement assumé. Quand je pense à vous, Raphaël, je pense à un film qui vous va si bien, et il suffit d'écouter cette musique pour y repenser.
Qu'est-ce que c'était bien ça?
Ibrahim Malouf qui signe la musique de ce très beau film de Safi Nebbou qui vous met en scène en ce moment au théâtre de l'œuvre. C'est dans les forêts de Sibérie, adapté du bouquin de Tesson.
Ah, c'est bien ça.
Ibrahim Malouf nommé au César dans la catégorie meilleure musique originale. On aura le verdict là, dans les jours qui viennent.
Demain soir.
Un film où, à mon sens, vous vous êtes encore plus révélé dans votre filmographie. C'est une interprétation vraiment stupéfiante. J'aurais aimé vous voir nommé au César demain soir. Mais je sais que vous avez aussi d'autres cordes à votre arc, à Raphaël Persona, la musique, la trompette aussi.
Oui.
Alors,
C'est pour ça, parce qu'on s'est croisé au concert d'Ibrahim Malouf. Je me suis dit, parce qu'il a fait la musique du film, il y a un lien. Mais je ne savais pas que vous jouiez aussi. Vous auriez pu être
sur scène. Mais j'étais très admiratif de voir Malouf à Bercy jouer.
C'était dingue ce concert.
C'était dingue. Incroyable. Et il y a eu un moment où il a juste joué avec une guitare comme ça devant 15 000 personnes et juste avec sa trompette et une petite guitare arriver à faire taire 15 000 personnes et avoir un tel silence, c'était fabuleux. J'en ai les larmes aux yeux.
Et donc vous êtes au aussi instrumentiste,
oui,
vous aussi.
Trompettiste, oui.
Vous êtes trompettiste. Mmh. Et alors, dans les interviews, quand vous parlez de musique, on sait que vous avez une connaissance assez stupéfiante de la musique, parce qu'à chaque fois que vous venez, on pourrait faire un blind test, et avant que le disque parte deux notes, vous savez déjà quel est le titre. Donc, il y a une bonne compète à faire avec Nagui, je pense.
Ouais.
Mais pour la musique.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, ouais, ça peut être intéressant. Et la musique, vous en parlez dans les interviews en disant, oui, je fais de la musique un peu comme ça, pour le plaisir avec mon cousin, etc. Mais vous êtes sûr que c'est pas plus sérieux que ça, la musique ?
Si, mais c'est un rêve totalement inavoué, inassouvi, et puis je me sens pas du tout la légitimité. Un moment, c'était ce que je voulais faire au début. Je voulais être trompettiste, je voulais être Wynton Marsalis, qui est un grand énorme jazzman. Voilà, énorme. Je l'avais vu dans énormément de concerts, et je sais pas, non, je m'en suis jamais senti la légitimité, mais je rêve. Vraiment, ça, c'est mon rêve le ultime, c'est d'être sur une scène un jour, soit de jouer de la trompette, soit de chanter, n'importe. Mais je trouverais, j'y arriverai un jour.
Vous auriez pu être sur scène avec Ibrahim
oh là,
à Bercy.
Non, le niveau qu'il a, mais c'est monstrueux.
Non, mais il y avait suffisamment, suffisamment de tableaux.
Ah oui, j'aurais adoré
tout
ça.
Tout au long de la soirée, pour se glisser, faire une espèce de caméo comme ça, ouais. Ce crédit au milieu de.
C'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait 200 musiciens sur scène, c'était dingue.
Il y avait des élèves qui étaient venus le rejoindre, des professeurs aussi de conservatoire. Et finalement, il a réuni toute sa vie en une soirée. Et la force d'Ibrahim Maalouf et sa générosité et son intelligence, c'est d'avoir raconté cette histoire sans nous exclure, et on rentrait totalement et on était dans l'émotion de ces rencontres. Mais il y a des moments où j'avais envie de pleurer, tellement c'était fort ce qu'il portait, et en musique et en relations humaines.
Et puis il faisait chanter tout le public en même temps, c'était incroyable. En effet,
il
c'est
dirigeait,
le mot.
Il dirigeait
tout le monde.
Comme un chef
et c'est vrai qu'il a une générosité. Mais même, moi j'aime ça en fait, c'est-à-dire qu'il rend accessible des choses qui a priori sont inaccessibles, ou en tout cas on se dit c'est pas grand public.
C'est ça. Sauf c'était son discours aux Victoires de la Musique d'ailleurs, lorsqu'il a remporté la victoire, c'est ce qu'il a dit, que s'il pouvait donner envie à des petits gamins qui regardent la télé de faire de l'instrument, quel qu'il soit, et ben, il aurait réussi quelque part sa vie. Il a dédié vraiment à ça, à cette transmission.
Mais il a bien réussi.
Et il continue d'enseigner, hein, faut pas l'oublier aussi. Ouais. Ça reste un professeur, donc c'est la transmission et la passation. Mais ce côté usurpateur, d'être usurpateur, c'est quand même bizarre, non ?
Non, mais en musique, non, mais attendez.
Mais
moi,
n'importe quoi, peu importe.
Ah oui, mais ça, c'est, je pense que tous les artistes.
Carpe diem, Raphaël.
Mais bien sûr,
je me soigne.
Mais je pense que tous les artistes ont ça, ce sentiment d'être illégitime. Mais en même temps, ça peut être un moteur aussi. Je pense qu'on l'a tous, même autour de cette table, si je fais un petit sondage.
Ah, on est tous illégitimes. Non, mais on peut tous se poser la question de se dire, mais pourquoi nous, on est là et pas quelqu'un d'autre à notre place?
Oui,
absolument.
Voilà.
Donc à quand un album ?
J'ai déjà enregistré un EP, dire la vérité.
Et ben voilà, on y arrive.
Eh ouais,
et on peut l'écouter bientôt ?
Bien sûr, sur France Inter.
En playlist.
Bien sûr.
Et c'est quel genre de musique ? Parce qu'on parle de musique en général.
Un peu de la trompette quand même.
Vous voyez, Beyrouth, c'est un peu dans le genre peut-être.
Très bien. Scène de la vie conjugale, c'est au Théâtre de l'Œuvre. Laetitia Casta et Raphaël Persona sont nos invités. Voici dans la bande originale Sydney Lang.
Oh my god. Moi, j'ai pas de problème de légitimité. Voilà, Nagui, déjà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier Alison de m'avoir passé le micro. Et au passage, saluer son travail que je trouve mirobolesque. Voilà. Hier soir, la NASA a annoncé la découverte de 7 exoplanètes de la taille de la Terre. C'est-à-dire, ce sont des planètes qu'elle pourrait abriter de la vie humaine. D'accord ? Et en tant que candidate au ministère des Affaires très étranges, je souhaiterais adresser un message aux aliens. D'accord ? Je pense en toute humidité, Nagui, que s'il y a... S'il y aurait qu'un seul message à leur adresser, ce serait qu'est-ce que je l'ai écrit, d'accord ? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et quand il y a de l'espoir, il y a du R&B.
Ah, mais ouais.
La musique, ce langage universel. Bienvenue dans notre système, petite alien. Je voudrais te prévenir avant que tu viennes. Si ta peau est rouge, verte ou bien violine, on t'aime quand même, n'écoute pas Robert et Marine. Tu verras qu'on est des super voisins. Même si au début, faut pas trop que tu manges notre pain. Non, s'intégrer ici, c'est pas facile. Oui, si t'as de la thune, on sera docile. Petite alien, déjà je t'aime. Petite alien, déjà je t'aime. Vas-y, viens voir ma jolie planète. Je te ferai visiter Gif sur Yvette. Je te ferai découvrir nos spécialités terriennes. Le surimi, la pâte à fixe et Guillaume Gallienne. Je t'imagine tellement moderne, italienne magique. Un mix entre un iPad et Patrick Timsit. Tes tentacules te rendent si sexy et différent que tu peux faire 10 bras d'honneur en même temps. Je suis sûre, sous tes aisselles y'a des post-it. Et t'as un vrai hélico à la place de la butte. Oh petite alien, petite alien, je t'aime. Petite alien, je t'aime. Peut-être as-tu déjà une religion, yeah yeah, avec un dieu qui lance des champignons. Moi Sydney, je me convertirai à ta cause, yeah yeah. De toute façon, j'ai déjà plein de mycoses. Non non non, non non non, réponds à mes questions, sois gentil. Non non non, non non non, me laisse pas comme des abrutis. Pourquoi avoir fait des pyramides à la con? C'est vous qui avez pointé le programme de Macron. Est-ce que c'est vous les statues sur l'île de Pâques? Et si je vous donne Nagui, vous nous rendez tout back. Petite alien, je t'aime. Peut-être que tu te méfies de moi, miskine. Mais je veillerai à ce qu'on frappe pas toi de la terrine. Fini les guerres et les barbares. Et promis, on fera plus d'albums de Grégoire. Petite alien, je t'aime. Je sais qu'un jour tu viendras me chercher. Tu seras mon alien, je serai ta replay. Ce jour que tu me prendras dans tes bras, yeah. Si jamais tu as des bras. Petite alien.
Ça s'appelle Nagui et bande originale.
Excellent, excellent. Nous allons continuer de parler évidemment de la scène de la vie conjugale, scène de la vie conjugale au pluriel. Avec c'est sur 10 ans hein, l'histoire finalement de ce couple, même plus.
Même 20 ans.
20
ouais.
ans.
Ouais, ouais. De c'est difficile d'enchaîner. C'est...
Oui, oui, c'est particulier. Sortir de Sydney Love.
Petite alien.
Ouais, c'est petite alien, petite alien. Non, c'est sur 20 ans.
Sur 20 ans, ouais.
Sur 20 ans, l'histoire de ce couple, pourquoi il se défend, comment vont-ils se remettre ou pas ensemble, mais c'est une manière évidemment de grossir le trait de tout ce qui peut se passer dans la vie de couple, de se poser des questions forcément sur la sienne, sur peut-être la monotonie au sein du couple, sur la présence ou pas de la sexualité au sein du couple. Tout à l'heure tu as dit, Leïla, est-ce qu'un couple peut exister sans vie sexuelle? On posera la question au docteur Sylvain Mimoun qui signe Côté cœur, Côté sexe, justement l'ABC du bonheur à deux chez Albin Michel. Mais d'abord, voici la bande originale de Laetitia Casta et de Raphaël Persona. Raphaël, vous écoutiez en 1993. C'était le rap à 12 ans, c'est ça? Vous écoutiez, vous étiez ado en écoutant le Mia?
Oui, j'avais 12 ans, oui. Bah, c'était l'émergence de NTM, IAM. Avant, il y avait eu MC Solar. D'ailleurs, il y a eu un petit titre qui a été exhumé il y a peu de temps par Jimmy J, qui est absolument génial. Donc voilà, c'était cette époque-là. Ouais. Et puis les clips de Michel Gondry aussi sur ce titre-là, c'était génial. Quoi.
Il y a l'alliance ethnique.
Et comment vous étiez?
Waouh!
Je me sens sortir de l'univers
c'est bien,
comme ça.
C'est bien,
moi,
c'est bien.
Toi, t'es d'accord avec
c'est
moi.
C'est les exoplanètes.
Alison, t'es d'accord avec moi.
Oui, c'est vrai.
Ouais, Camaro, alliance ethnique, elle est d'accord avec moi.
Camaro, c'est après. Ouais. Attends, là, c'est des Camaro et alliance ethnique.
Non, mais Camaro, c'est 10 ans après.
Mais c'est génial.
Alliance ethnique, Ménélique, là, oui.
Ouais, c'est 93, Farb.
Chef Mamie Camel.
Bien sûr. Parisien.
Du Nord.
Parisien du Nord, bien sûr.
Voilà.
Ok, c'est bon, c'est fait.
C'est bon. Je pense que c'est important.
Je pense que c'est un bon moment de radio que les auditeurs viennent de vivre. Voilà.
Ça y est, enfin pour tout le monde.
Ouais.
Vous découvrez le théâtre par amour ou du moins par drague.
par drague, oui, à 12 ans, bah oui, ou 12, 13 ans, je vais dans un cours parce que, mais je l'ai déjà dit plein de fois, elle en a marre.
Tais-toi.
Elle en a marre, parce qu'elle voulait dire, arrête de dire que tu me draguais, c'est bon.
Oui, je l'ai vu dans la rue, elle m'a dit, arrête de dire, parce que moi je suis marié, j'ai des enfants, c'est chiant. Je lui dis, ça va, t'avais 12 ans.
C'est mignon.
Bon, bref, j'avais été dans ce cours-là pour la draguer au début.
Rappelez-nous son nom.
Ah oui, je l'avais dit.
Ah oui.
Eh ben, on va leur dire. Jeanne, allez.
Allez, Jeanne. Et on embrasse tes enfants et ta famille et ton mari.
Exactement.
Tout va bien. Vous, Laetitia, votre grand frère vous inscrit à un concours, mais pas de théâtre, à un concours de beauté. C'est particulier comme comportement de grand frère, justement, de dire, vas-y, va te présenter pour être Miss.
Bah alors, en fait, c'est dans le village. C'était toutes les filles du village.
En Corse,
tout le monde devait participer. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire cette chose-là. Mais pour faire plaisir à mon arrière-grand-mère, il m'a inscrite. Voilà.
Votre grand frère ?
Mon grand frère.
Qui est généralement protecteur, on est d'accord.
Oui, mais lui, ça le faisait rire, en fait. Parce que moi, j'étais extrêmement timide et je me suis retrouvée là parce que... pour mon arrière-grand-mère. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu lui payer un restaurant. On est allés en amoureuse toutes les deux sur la plage.
Oh, c'est génial. Oh, c'est
mignon. En étant Miss Lumio.
Voilà. C'était en train dans ce petit village. Ça restait là.
Les premières scènes sur lesquelles vous avez essuyé les regards ou les applaudissements du public, c'était des podiums. Le catwalk que vous avez découvert, c'est Jean-Paul Gaultier, le premier qui vous a fait défiler.
Oui.
Est-ce que vous, dans ce cas-là, comme lorsqu'on est chanteur ou comédien, est-ce que on garde un rapport particulier, privilégié avec le premier qui a cru en vous ou qui vous a donné une opportunité d'exister ou de vous réaliser?
Oui, bien sûr, oui. J'ai des souvenirs très très forts avec Jean-Paul Gaultier. Je me souviens du casting. Où ça prenait tout l'immeuble, toutes les marches de l'immeuble. Il y avait des punks.
Tellement la file était longue.
Oui, ça sortait. D'accord. D'ailleurs, ça sortait jusque dans la rue. Et je me souviens d'être arrivée à cette adresse-là. Et moi, j'étais encore à l'école. J'avais mon cartable. C'était le mercredi. Et je me souviens être revenue dans la voiture en disant mais c'est la mauvaise adresse, on s'est trompé. Parce que les mecs avaient des cheveux pas possibles, des piercings partout, des
tatouages. C'est pas là la mode.
c'est pas ça. J'étais comme l'intrus. Et je me souviens d'être arrivée donc au bout d'une heure en haut et je l'avais vu dans l'ouverture de la porte, et je me dis, mais il est là lui-même, et là en personne.
Et c'était lui qui jugeait, c'était lui qui faisait le casting.
C'est lui, comme un casting, qui rencontrait les gens.
Personnellement, d'accord.
Personnellement, et je me suis dit, ça va jamais le faire, quoi. J'ai rien à voir avec tout ça. Et il m'a mis un costume d'homme trop grand, et là, il m'a dit, bingo.
Génial.
Ok. Et ça commençait comme ça. Et je me souviens, c'était la première fois que je me faisais maquiller par un grand, grand maquilleur qui s'appelle Stéphane Marais. Et ça durait des heures et des heures. Et j'en pouvais plus sur la table, assise. Je me disais, oh là, j'espère que ça va s'arrêter. En même temps, comme une petite fille, j'avais 15 ans, je me disais, ah, chouette, on met du rouge à lèvres, du mascara.
On déguise.
D'un coup, je me regarde dans le miroir, mais j'ai eu peur.
Pourquoi ?
Mais c'était violent. C'est un autre visage. Et je me disais, si c'est ça la mode, franchement. Et je me souviens d'être rentrée chez moi.
Vous avez eu peur, pardon, de vous voir en femme ?
Ah non, mais c'est pas en femme, en
étant
déguisée.
Avec du rouge à lèvres, avec du mascara.
Dans la mode, c'est génial. Puis après, j'ai appris, bien sûr. Mais sur le moment, c'était très étrange d'avoir.
D'avoir lu quelques interviews vous concernant, vous n'étiez pas bien dans votre peau quand vous étiez adolescente.
Vous en connaissez, vous, des ados bien dans leur peau ?
Anaki, il était bien, lui.
Non, mais on a du mal. Non, mais je suis bien.
D'ailleurs, je
n'ai pas le corps de Laetitia Casta. C'est étonnant quand on voit la carrière que vous avez faite, quand on voit la manière dont vous avez utilisé au théâtre, au cinéma, dans la mode, dans la photo, dans les clips, la manière dont vous jouez. C'est étonnant d'entendre ce mal-être. Et vous dites encore aujourd'hui, je ne suis pas bien dans ma peau. C'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit encore aujourd'hui.
Non, ça va.
Il fait dire n'importe quoi.
Non,
aux amis.
Non. Mais vous venez de le dire il y a deux secondes. Vous dites encore aujourd'hui, je ne suis pas bien.
J'étais extrêmement timide. Et c'est très étrange de faire ce métier. Et c'est très contradictoire, mais on est vraiment exposé.
Ce qui est étrange, c'est de le faire à 15 ans. Je trouve ça extrêmement tôt.
C'est la vie qui en a décidé ainsi, mais c'était pas prévu.
En 2002.
Mais je suis pas mal dans ma peau. Hein. Ça va très bien, vous savez.
Vous réécouterez, vous réécouterez l'émission, vous avez quand même glissé. Encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise. Vous venez de le dire.
Il aurait pu être flic, hein.
Ça dépend avec qui.
Bah avec nous, alors. D'accord.
Elle est bien, d'un coup, elle se sent bien.
Raphaël...
Mais là, je me sens plus bien du tout. J'étais bien, mais là, d'un coup, je me dis bon. Je suis italienne.
Je t'avais là.
Excuse-moi. Raphaël, écoutez, en 2002.
Le public est en folie.
Ah bah c'est la playlist de Raphaël finalement.
C'est bien.
Eminem en ouais c'est ça.
C'est vrai.
La BO ouais.
C'est magique.
Absolument.
Bah oui c'est allié deux choses cinéma et musique. Quoi. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bonsoir. Ça nous a fait plaisir.
Justement, votre première émotion au cinéma, c'était quoi? C'était qui?
Oh là là, je sais plus, je...
Nous, on sait.
Ah ouais? Dis-moi. Parce que je me contredis
un
tout le temps.
Un petit rôle dans Mille Millième.
Ah oui, en tant que...
Fantaisie
oui, oui.
Immobilière.
Ouais, j'avais eu deux petits jours de tournage et je tournais avec Daroussin et j'avais adoré cet homme-là. Donc voilà, j'avais pris un vrai plaisir. J'avais joué aussi, j'avais une petite scène avec Patrick Chesnay aussi, voilà. Donc j'étais gâté, quoi. J'étais tout jeune et j'étais hyper content, ouais.
Dans cette même période, Laetitia, vous découvrez...
J'étais mal dans ma peau.
La plaisir. On va ressortir...
Vous, les êtres qui êtes bien dans votre peau.
Pas du tout. S'il y a bien un qui n'est pas bien dans sa peau, c'est moi, mais on va
c'est
ressortir...
C'est vrai que Nagui est très mal dans sa peau.
On va ressortir le petit bout, comme ça, vous entendrez que vous l'avez dit, mais c'est pas grave. C'est Patrice Lecomte qui vous fait tourner dans Rue du Plaisir. Au début, vous avez raconté que vous jouiez dans une petite pièce, avec un plafond très bas, et que vous... Finalement, il y avait un sentiment presque d'écrasement, à la fois de pression. Et cette scène vous a marqué.
Dans Rue des Plaisirs?
Ouais.
Ouais.
Ah, vous me sortez que des trucs chelous.
Non, attendez. Il faut arrêter de les raconter. Moi, je prends des interviews.
C'est une scène dans un bordel, Laetitia. Une scène dans un bordel.
Ouais.
On racontait que c'était un...
Très oppressant, c'est ça?
Oui, voilà. Ouais. Il y a des odeurs de parfum, de poudre, beaucoup de monde sur le plateau et que vous êtes senti...
Vous avez eu peur, même, ouais. Carrément. Incapable de faire le film. Je vous ai dit, je vais vous redonner votre interview.
Vous pouvez pas, tant tu l'as fait. Je vais pas lui foutre la paix, un petit peu.
J'ai eu. Non, parce que c'est. Pardon, on peut pas lire cette interview et se dire, ouais, bah, c'est bon, c'est pas la peine, on va pas en parler.
Non, vous dites, 11 ans, il n'y a pas de souci. Ouais.
J'ai eu peur, je me suis senti incapable de faire le film, j'ai tout fait, je me suis mise dans un coin.
Ouais, ça s'appelle quelqu'un qui a le trac. Enfin,
c'est violent.
Si je devais avoir le trac, j'en sais rien, je me souviens plus. Oui.
Non, mais c'est carrément, c'est se. Se faire mal, quoi.
Je sais pas quoi vous dire parce que bon, je me souviens plus de cet épisode.
Parce qu'aujourd'hui, mais... c'est un bon souvenir.
Non, mais il s'est avéré que sur le film, j'étais enceinte. Ah. Sur ce film.
J'avais pas le test, là, donc je pouvais pas
donc,
faire.
Donc c'était peut-être mes hormones qui jouaient du tango, j'en sais rien.
Dans Rue du Plaisir, vous chantez également.
Oui. Oui. Des chansons de Maurice Chevalier. Ouais. Une chanson de Maurice Chevalier, ouais, c'était chouette à faire.
C'est alors là cette envie de se mettre devant un micro, vous l'avez déjà fait. Vous êtes même venu avec Nosfell, si j'ai bonne mémoire, chanter dans Taratata.
J'étais mal dans ma peau.
Déjà, incroyable. Vous avez envie de continuer là-dessus ou c'est le faire quand on vous le propose?
Oui,
ça
quand
dépend
on
de l'invitation.
Propose, je trouve ça enfin sympa à faire. Quoi. C'est tout autre chose de chanter. En même temps, c'est quand même interpréter un texte, mais c'est vrai que chanter, c'est s'exposer autrement, de laisser sortir sa voix, c'est se mettre aussi un peu à nu, et c'est quelque chose d'assez de beau, je trouve ça chouette.
En 2008, Raphaël, vous devenez réalisateur et vous écoutiez...
Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est bien ce groupe.
Faut le couper, hein. Il me regarde et fait terrible. Non, tu peux pas parler là-dessus.
C'est normal.
C'est des extraits. Last Shadow Puppet, qu'est-ce que c'est bien.
Leur premier album. Ah ouais, ça c'était un vrai choc. Et puis aussi, encore une dimension cinématographique. Quand vous voyez leur clip, c'est extraordinaire. Le clip de cette chanson, allez le voir sur. les sites dédiés, ouais. Bah, sans le citer. Bon. Dailymotion,
ouais, citer les deux.
Non, mais aussi, c'est très très beau ce qu'ils font aussi en clip. Et puis j'adore leur musique.
Vous avez réalisé un court métrage. Est-ce que justement réaliser un clip, ça vous amuserait aussi de joindre les deux passions?
Tiens, pas bête, j'avais jamais pensé. Merci.
Je cherche quelqu'un pour réaliser mon clip Petite Alien.
Petite Alien. L'équipe va devenir folle à la fin de deux jours de tournage avec Petite Alien en permanence dans la tête. Moi, je le fais demain. Ouais.
Il le fait gratuitement, je suis sûr même.
Non.
Vous recevez Laetitia Casta en 2008 le prix de la meilleure actrice, le Swan d'Or, au Festival du film romantique de Cabourg pour votre rôle dans Né en 68. D'arriver à avoir une reconnaissance par des professionnels. Enfin, je ne sais pas si ce prix-là d'ailleurs est remis par des professionnels ou par le public. C'est professionnel ?
Oui, des professionnels. Oui.
C'est le premier prix que vous recevez ?
Oui.
En tout cas, en tant que comédienne et par des professionnels, quel sentiment vous aviez eu à ce moment-là ?
J'étais très 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 heureuse et contente aussi pour les metteurs en scène. Oui,
Tout à l'heure on évoquait Raphaël et moi parlions de ce sentiment qu'on peut avoir d'être des usurpateurs en se disant pourquoi nous, pourquoi là, pourquoi à ce moment-là. Est-ce que là d'un coup, ça, si vous avez eu ce sentiment en tout cas un jour, est-ce que ça le balayait
non,
en disant
pas du tout.
Là il y a une reconnaissance?
Non, pas du tout. On peut pas faire ce métier en pensant comme ça. À chaque fois, faut tout recommencer et de zéro.
Vous jouez au théâtre avec Elle t'attend, la pièce de Florian Zeller. De jouer avec l'auteur qui se trouve dans la salle, dans les répétitions, c'est quel sentiment on a ?
C'est très compliqué quand un auteur devient metteur en scène, parce qu'il a un rapport à ses personnages très fusionnel. Et du coup, pour laisser place à une certaine liberté de jeu, c'est plus difficile. Aujourd'hui,
est-ce qu'à l'inverse, il pourrait y avoir le confort, au contraire, de faire évoluer le personnage avec lui, de lui dire tiens, et ou de proposer.
Et en tout cas, dans cet exercice-là, avec lui, dans cette expérience-là, ça a été difficile. Il était très, très attaché à ses personnages, avec une idée bien définie.
Vous avez déjà, avec toutes les pièces que vous avez faites au théâtre, vécu ce genre de situation, Raphaël ?
Est-ce que l'auteur était là ? Non, mais... non, alors je cherche là comme ça, mais j'ai joué à Nouilles, il n'était pas là. Non, on a eu, pour les cartes du pouvoir, on a eu Beau Willimon, l'auteur de House of Cards, qui était venu carrément de Washington pour voir la pièce. Il était venu là, avant la pièce. Il n'y a rien de plus dur que de jouer devant l'auteur. Alors j'imagine que...
Là, c'est une adaptation en plus.
C'était une adaptation. Mmh. Alors j'imagine que... En plus, il ne comprenait rien, puisqu'il est américain, et qu'il parle, comme tous les Américains, il ne parle pas français. Il nous le reproche en permanence de ne pas parler anglais ou américain. Mais est-ce qu'il parle... J'ouvre un nouveau débat. Bah, je vais partir sur autre chose.
Est-ce qu'eux-mêmes se comprennent ?
Oui.
Parce qu'en ce moment, c'est chaud.
Ils ne comprennent pas trop.
C'est chaud, ouais, c'est chaud. Nous avons donc demandé, pour parler à nouveau et avoir un autre point de vue, un autre éclairage des scènes de la vie conjugale d'Ingmar Merman et cette pièce que vous jouez, Laetitia Casta et Raphaël Persona, au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 30 avril, on a demandé au docteur Sylvain Mimoun de venir. Merci docteur.
De rien, merci
docteur.
Bonjour,
ça commence bien, j'ai l'impression de sortir une consultation.
Éclairez-vous.
Je vous dois. Merci.
Et il en a besoin de consulter. Hein.
Vous êtes gynéco, andrologue, psychiatre, vous dirigez le centre d'andrologie à l'hôpital Cochin à Paris, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la sexualité. Et alors justement, le rôle du sexe dans la vie du couple, c'est l'un des prismes par lequel on peut évoquer cette pièce. Tout à l'heure, Leïla a dit... Il ne peut pas y avoir de vie de couple sans vie sexuelle.
Il ne peut pas, j'y...
C'était peut-être quand... même une question. Quoi.
Oui, quand il y en a un qui en demande dans les deux, ça devient compliqué de, j'imagine, faire une croix dessus durablement.
Alors docteur,
C'est là que les problèmes de couple commencent. Parce qu'en fait, tant qu'ils s'aiment et qu'ils font éventuellement un peu l'amour, ils continuent à être en lien l'un avec l'autre. Si tout d'un coup, l'un des deux, lui ou elle, décide d'arrêter...
De faire l'amour.
À ce moment-là, ils continuent à rester ensemble et il y en a un qui souffre en silence, plus ou moins en silence, et c'est là que les problèmes de couple commencent à s'installer.
Alors la vie de couple, c'est surtout avec enfants, c'est évidemment les couples qui restent ensemble parce qu'il y a les enfants et parce qu'il y a le regard de la société.
Chien aussi, parfois.
Et puis même parce qu'il y a les problèmes économiques.
Ou la maison, ou des choses comme ça.
Ou parce qu'ils ne sont pas si mal ensemble, parce que finalement, on peut aussi considérer qu'il y a la passion du début qui fait qu'il y a une sexualité foisonnante et mais qu'avec le temps, ça s'amenuise et que ça peut disparaître.
Pas sans
rapport
sexuel. Il peut y avoir amour ou pas sans rapport sexuel ?
il peut y avoir amour. Quand j'ai lu la pièce, en fait, où on repère mieux les textes qui sont dits, etc., à un moment donné, on voit bien que Johan, lui, il est complètement prêt à démarrer sur le sexe.
Ouais.
Alors que elle recule, ou en tout cas, elle fait comme si elle n'entendait pas. Et c'est là où, et ça, c'est le problème de tous les couples, même aujourd'hui. Quand il y a un problème de sexe, c'est rare que les deux soient conscients du problème. Et quand lui dit, l'homme, « Mais tout va bien entre nous, il n'y a pas de souci. » Et à ce moment-là, je dis, je vous pose la question à chacun de vous deux, est-ce que si les choses persistaient comme elles sont maintenant, est-ce que tout irait bien ou est-ce qu'il manque quelque chose ? Et il n'est pas rare que lui ait envie de dire, il manque quelque chose.
Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Pardon,
oui,
mais
oui, oui.
Il y a le sexe et le sexe.
Oui.
Et comment c'est fait ?
Ah mais Johan avec, super
c'est-à-dire
fort.
Que si vous avez, ah oui. par exemple, sûr. Un homme qui se jette sur vous,
mais bien sûr.
Juste ça,
bien sûr que bon, non.
Ou ça dure 10 minutes et voilà, c'est pas très intéressant.
10 minutes, c'est non. beaucoup trop long.
Écoutez, je suis tellement mal dans ma peau dans ces moments-là, si vous voulez, que ça met un peu de temps, vous voyez.
Éteignez la lumière.
Non, mais voilà, donc c'est pas juste, par exemple, si je reprends le personnage de Marianne, on peut imaginer qu'elle a peut-être envie de tendresse, d'être regardée autrement, pas juste du sexe pour du sexe.
Oui. Ouais.
Oui, mais là.
Et
c'est
d'ailleurs,
là...
elle en parle. Elle lui dit à un moment dans la pièce, Johan, si on n'arrive plus à faire du sexe, si on n'arrive plus justement à faire l'amour, c'est ça dont elle parle, faire l'amour.
Alors, est-ce que la baisse de désir est synonyme de baisse d'amour ?
Non.
Baisse d'amour.
Non.
Est-ce qu'on peut l'isoler aussi celle-ci parce que j'en ai besoin pour la fin de l'émission.
Alors on a le document de Laetitia.
Voilà. Alors écoutez, on a les deux.
Écoutez bien.
C'est quoi ça ? D'ailleurs, je me suis
je n'ai pas le
Mais, mais vous savez que je rigole hein, quand je dis.
C'est pas l'endroit pour déconner ici.
Ah bon, d'accord. On peut pas tout prendre au sérieux, Nagui.
Parle de choses graves. Donc oui, est-ce que baisse de désir veut dire baisse d'amour ?
Non.
Merci.
Avec le désir, on peut trouver l'amour. Et si on a l'amour plus le désir, là, c'est le nec plus ultra. Et c'est ça l'objectif. Combien d'hommes disent « Moi, je n'ai pas besoin d'être amoureux pour faire l'amour ». Ce qui n'est pas faux. Il y a plein d'hommes, ou de femmes d'ailleurs, qui fonctionnent comme ça. Mais si ces mêmes hommes ou femmes découvrent l'amour en même temps et qu'ils font l'amour avec la personne qu'ils aiment, là, ça devient réellement nirvana.
Donc pour que le couple, pour que le cœur puisse vivre le plus longtemps et dans un équilibre parfait, il faut entretenir...
Il ne faut pas arrêter de faire l'amour.
Il faut jamais... D'accord.
Ça, je le dis clairement.
Non, docteur, mais... quel est le rythme que vous nous conseillez ?
Non, à votre rythme. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Mais la question de fond... Moi, j'ai vu des patients qui avaient... L'homme le plus âgé que j'ai vu, qui avait une difficulté sexuelle, avait 99 ans. Donc vous voyez que vous avez de la marge. Et la plus âgée des femmes qui est venue pour une difficulté sexuelle, elle avait 88. Donc ça dure très longtemps de faire l'amour. Mais pour, quand je demandais aux uns et aux autres, qu'est-ce que vous faites pour le faire si longtemps ? Mm-hmm. Dit on n'a pas arrêté.
C'est joli.
C'est ça. C'est joli. Et ça veut dire que dès qu'on arrête de faire l'amour dans le couple en se disant, de toute façon, on est ensemble, c'est pas grave, dès qu'on arrête, on peut s'habituer à cet état-là et la libido
disparaît.
C'est
comme la grève de la faim. Quand on fait la grève de la faim, on a faim. Quand on arrête de manger, on n'a plus faim. Et on sent plus le besoin de manger. Mm-hmm. Et sur le plan de l'amour, c'est la même chose. On sent plus le besoin de faire l'amour. Combien de couples se sont endormis, entre guillemets, gentiment, en se disant, bon, on verra demain, et c'est les mois et les années qui suivent. Et à ce moment-là, il se passe plus rien.
Et ceux qui c'est peut-être plus à la mode, c'était la mode dans les décennies précédentes de dire on est libre, chacun fait ce qu'il veut dans son coin et on se retrouve et comme ça notre couple sera plus solide, c'est totalement bidon.
Non, mais c'était à l'époque en tout cas, c'était quand même beaucoup d'alibi. Hein, c'était
des alibis. Les amours pluriels, ça peut fonctionner aussi.
Mais ça peut fonctionner.
Oui, mais dans la même pièce.
La vraie difficulté, c'est d'être au diapason avec la personne du couple.
Et donc ne pas faire l'amour dans un couple, s'il n'y a personne en souffrance, en fait tout va bien. En fait c'est juste une question, quand on parlait de régularité et de fréquence, ça dépend de ce qui met l'autre en souffrance.
Si les deux
ou pas.
Se sont endormis et que ni l'un ni l'autre ne souffrent, tant mieux pour eux.
Oui, voilà.
Mais
alors je vous pose une question, si l'un d'eux, c'est horrible de penser ça, mais si l'un d'eux un jour tombe malade et ne peut plus... Il y a quand même autre chose qui reste dans le couple, non ? Une manière de penser, de discussion, ça c'est
C'est la transcendance que les humains peuvent avoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils transfèrent leur amour, voire même leur pulsion sexuelle, sur de l'amour affectif, simplement. Et quand, justement, quand il y en a un ou une qui a une maladie grave et que l'autre reste l'accompagnateur, à ce moment-là, ils peuvent tout à fait être très proches là-dedans. Mais malgré tout, et ça c'est presque une de mes spécialités, puisque je vois beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont des cancers, et quand ils ont des cancers terminaux, celui qui est l'accompagnant est d'autant plus amoureux de l'autre, quoi. Mmh.
Dans Scène de la vie conjugale, sur ces 20 ans, la manière dont le couple se sème, se défait, se re-aime et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est assez fréquent finalement que vous pouvez
constater. Oui, c'était très bien vu de la part de l'auteur de voir, parce qu'il y a beaucoup de nuances, hein, ça semble simple comme ça, mais il y a beaucoup de nuances à repérer. Les petites modifications qu'il peut y avoir.
Y compris, pardon, ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière dont l'un peut avoir l'ascendant sur l'autre et dont l'aventure extra-conjugale peut peut-être redistribuer les cartes.
Qu'on le veuille ou non, ça je ne vais pas me faire que des amis, mais dans le couple, il y a toujours un problème de pouvoir. Et donc à partir de là, il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre, mm-hmm. par essence personnelle, femme ou homme, peu importe. Mais à partir du moment où on a pris cet ascendant, c'est aussi à l'autre de ne pas se laisser déborder et manipuler, entre guillemets, ou
prendre
diriger.
Sa place, quoi. Prendre
voilà,
sa place
exactement.
Dans le couple.
Il faut défendre son territoire.
Il y a une recette, côté cœur, côté sexe, pour que l'équilibre soit parfait. S'il y a un conseil à donner, homme ou femme d'ailleurs, parce que...
Voilà, dans un couple, ça marche bien s'il y a un égoïsme partagé. Si chacun des deux s'occupe de lui-même. Si elle, elle sait ce qui lui plaît, et lui ce qui lui plaît, ils vont pouvoir partager le plaisir ensemble.
Ce qui marche, puisqu'on va reprendre le sujet d'Ali tout à l'heure dans son émission, ce qui marche aussi entre homme-homme, femme-femme.
Ah oui, bien sûr. Ça change rien. D'ailleurs, quand on voit les couples du même sexe, ils ont exactement les mêmes difficultés que les couples hétérosexuels.
Chez Albin Michel, docteur Sylvain Mimoun, avec Rika Etienne, vous signez Côté cœur, côté sexe, l'ABC du bonheur à deux. Merci d'être venu, Sylvain.
C'était un vrai plaisir.
Merci. Merci.
Sur France Inter.
Un peu de musique avec Her, ça s'appelle 5 Minutes, c'est dans la bande originale de votre matinée sur Inter.
All I need is 5 minutes, if you can see the sign. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources. And then the kisses, following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes.
5 minutes, ça s'appelle Her. Nos invités sont Laetitia Casta et Raphaël Persona. Nous avons et nous parlons de Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman qui se joue au Théâtre de l'Œuvre. Et ce, jusqu'au 30 avril et jusqu'à midi et demi, on en parle.
Ouh ! Quel lancement !
Bonjour Gina, soyez les bienvenus avec Lila Kadokoudaizi.
Bonjour.
Alissa Douillard.
Bonjour.
Cindy Lang.
Bravo.
Ah, Sydney, pardon, c'est Sydney, c'est pas Cindy, pardon, je suis désolé.
On écorche les noms.
Guillaume.
Bravo.
bravo.
Richard Larnac est au clavier et nos invités sont Laetitia Casta et Raphaël Personnard. Scène de la vie conjugale, c'est issu, cet extrait, enfin c'est tiré pardon du film d'Ingmar Bergman. Justement, nous en parlions avec vous en début d'émission. Est-ce que vous avez, en travaillant la pièce, revu le film, Laetitia ?
Moi, je l'avais vu avant, bien avant.
Et vous êtes replongée dans votre...
Non, parce que Safi Nebbou ne voulait pas qu'on regarde le film.
D'accord.
Pour pas être influencé.
Il met en scène, il me dit de ne regarder pas. Si vous...
Surtout, je vous demande.
D'accord.
Pas regarder le film.
D'accord. Donc vous qui ne l'aviez pas vu avant, Raphaël.
Ça m'arrange. Je suis un peu feignant. Voilà, je l'ai pas revu, mais cela dit, mais c'est vrai qu'un film comme ça en plus, considéré comme un chef-d'œuvre, sans doute, enfin qui a 40 ans maintenant,
qui est culte.
Oui. Qui est culte. Voilà, c'est le problème de le revoir. À mon avis, c'est qu'il doit tellement impressionner qu'on doit pas se sentir à la hauteur. Quand on lit un texte, il vous parle et vous avez envie de le défendre. Ça a été d'ailleurs l'envie première, quoi, avec cette pièce.
C'est difficile de résister à pas le voir.
Non, pas du tout.
Ah ouais.
Ah non.
Moi j'aurais envie d'aller. Mais pareil pour
le. C'est marrant parce que moi je me suis posé la question de dire est-ce que je vois le film avant d'aller vous voir sur scène ou pas. Et donc je ne l'ai pas fait. Enfin, je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas revu le film parce que je l'avais vu avant. Après avoir vu la pièce, je n'ai pas ressenti le besoin de revoir le film. Je ne sais pas si
je suis clair. Je suis d'accord avec cette démarche.
Non, vous c'était de la fainéantise. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On disait que il y a 20 ans donc de la vie d'un couple, de ce couple qui s'aime, qui a deux enfants, tout va bien. Et puis il y a la monotonie, il y a le rythme, il y a le désir qui peut commencer par s'affaiblir d'un côté ou de l'autre. Envie d'aller voir si l'herbe est verte, comme on dit chez le voisin, de la part de l'homme. Il va y avoir donc coupure, rupture, trahison, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a eu la rupture avant qu'il y ait une aventure extérieure. Puis on essaye de recoller les morceaux, c'est un peu comme comme un vase. On a beau essayer de recoller, il y aura toujours des traces, il y aura toujours quelque chose qui marquera. Vous avez dit que vous sentiez que dans la salle certaines personnes se regardaient l'un l'autre en faisant presque une analyse de couple, en disant ah bah ça c'est toi, ah bah voilà, bah, je ressens ça. Est-ce que vous le ressentez jusque quand vous sortez de scène, lorsque vous rencontrez le public, puisque vous êtes extrêmement abordable à la sortie du théâtre, on vous pose encore des questions, des gens se confient à vous.
Oui. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui attendent soit seuls, soit avec leur partenaire et qui...
On sent que c'est...
voilà. Oui, c'est ça. Souvent, il y a une personne qui est restée seule et qui vous attend pour vous faire des reproches. Non, mais souvent, il y a... Oui, ça peut faire écho à différents endroits. Et même nous, quand on la joue, enfin, suivant les jours, suivant ce qu'on a passé comme journée, il y a des endroits...
Ça vous laisse pas indifférent. Ça vous parle aussi.
Ça peut pas nous laisser indifférent. D'autant plus quand on était en répétition, parce que là, on passait 8-9 heures par jour avec le texte en permanence, donc forcément la frontière entre votre vie et puis le jeu est assez fine, quoi. Donc ça, il peut y avoir des échos qui sont perturbants, drôles aussi, parce que ça fait naître aussi. Moi, je pensais pas que Bergman pouvait faire rire. Enfin, c'était sans doute un a priori.
Ça rit.
Et c'est un rire de libération.
Oui, parce qu'il y a quelques reproches qui peuvent passer pour des vannes. C'est dans l'air du temps.
Ouais. Et puis, alors, Johan. Je vais pas pouvoir la jouer ce soir.
Vous articulez bien, Monsieur Personnaz.
Merci, mon père. C'est vrai qu'il a une forme de cynisme qui est parfois, il est glaçant, cassant, et ça peut faire rire aussi.
Laetitia Casta, vous avez vous aussi, ça a des résonances particulières certains soirs, le personnage que vous incarnez.
Oui, mais même, c'est vrai, pendant les répétitions, et c'est ce que nous demandait le metteur en scène aussi, il disait toujours, vous ne pouvez pas jouer cette pièce sans donner de vous. Mm-hmm. Parce que sinon, ça semble être juste une scène de ménage. Et pour aller en profondeur, il fallait aussi aller chercher nos inconscients, ce qu'on est, des choses qui nous échappent, se mettre à nu. Se mettre en danger pour que ça puisse atteindre aussi le spectateur qui va pas forcément se retrouver dans le couple, mais qui va avoir une résonance dans une sorte de compréhension de la vie ou de leur histoire à un autre endroit, mais ça touche aussi à l'inconscient du public. Et ça, c'est très intéressant.
Scène de la vie conjugale au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 30 avril seulement, alors que c'est un succès. Vous avez des obligations professionnelles qui font que vous ne pouvez pas
peut-être
continuer.
Peut-être là ce matin très tôt, alors qu'on pourrait être dans notre lit.
Non, mais on va Enfin bon, on parle peut-être de
prolonger. Ah, prolonger. Verra, ah ouais, d'accord, verra, très bien, verra, très bien. En tout cas, pour l'instant, c'est jusqu'au 30 avril au théâtre de l'œuvre. Pardon.
C'est pas fini.
Non, on va en parler, en reparler de scènes de la vie conjugale. On voit bien, en tout cas, Guillermo Guise, même si parfois on n'ose pas se l'avouer, que la sexualité est un élément central dans la relation amoureuse. Dans la
C'est trop mignon.
Il fait peur, hein.
Ouais, oui. Ça. Clairvoyance, fil de pêche, féculent d'origine incertaine. Tels sont les mots qui résonnent à mes oreilles quand je vous entends, monsieur Guy. Au nom de toutes les femmes de France Inter qui militent pour que vous les laissiez tranquilles. Au nom de Mathieu Gallet qui aimerait pouvoir consacrer son temps à autre chose qu'à répondre aux plaintes qui vous concernent. Je vous dis merci. Merci de nous abreuver de ces paroles réconfortantes. Mal formulées? Hein, on ne se refait pas, mais réconfortante. À la sexualité, sexualité, quel terme universel, la sève de la sève, le sang de mon sang, l'origine de toute chose. Après, moi je suis dans une relation stable, donc ça fait un moment que j'ai pas eu de relation sexuelle. Non, mais je suis ça d'un peu loin, avec le recul des sages. Mais de toute façon, moi je suis trop décevant au lit, quoi. Quand j'étais ado, j'étais persuadé que je serais l'avenir de la pornographie et tout. Mais là je suis à Rocco Siffredi, ce que Tony Verrel est à David Beckham, plus ou moins. On vieillit, quoi. Voilà, la dernière fois que j'ai essayé de faire une levrette, j'ai eu un souffle au cœur. Je dis pas ça uniquement pour jouer la connivence avec vous, monsieur Guy. La connivence du déclin, hein, c'est des gens qui ont l'essentiel de leur sexualité derrière eux et sursexté pour ce qui vous concerne. Je le dis parce que je n'ai jamais été aussi serein depuis que j'ai arrêté de faire l'amour. Vraiment, je peux prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, c'est 9 minutes. Je m'en sers à méditer, faire des puces, regarder des rediffusions de Taratata. Je me prépare à mourir, quoi. C'est la fin. Voilà, et c'est fantastique la mort de la sexualité. Si on ajoute à ça le temps que je gagne à ne plus être obligé de me doucher sur une base régulière, avec cette grosse extension de la zone de tolérance à la couille qui sent, je dis sale. Mécontent, sale mécontent. De toute façon, à partir d'un certain âge, les femmes prennent trop le contrôle sur la sexualité. Pas vrai, Maréchal?
Ah oui, ça c'est vrai.
On est bien d'accord.
Affirmatif.
Au lit, les hommes sont humiliés, laminés, dévirilisés par les femmes expérimentées. J'en parlais encore avec Jean-Luc Lahaye récemment, qui m'expliquait comment lui, il arrivait à contourner le problème. Mais le cul, c'est un truc d'homme jusqu'à 30 ans, et après, ça devient un truc de femme, quoi, pour le restant de la vie. Et c'est ce qui me fait dire, monsieur Guy, qu'une fois de plus, et avec une régularité qui force le respect, vous avez dit n'importe quoi.
Avec Nagui. Parlons de l'avenir aussi. Après cette pièce, savez-vous déjà, avez-vous un plan de travail, Laetitia? Vous savez que vous allez tourner un film, un téléfilm, enregistrer un album, faire une autre pièce de théâtre. Qu'est-ce qui est prévu pour 2017 pour vous?
Oui, il y a projet cinéma. Voilà.
Et avec qui? Lequel? Je peux en parler?
Pour l'instant, non. J'aime bien quand
c'est sûr.
Non, mais il pourrait y avoir un film déjà tourné qui sortira plus tard.
Non, pas encore tourné. Non.
Pas encore?
Non, pas encore. J'ai réalisé un documentaire.
Oui.
Ça c'est tourné. Ça, c'est...
Est-ce qu'on peut le voir sur Internet? Est-ce qu'il est libre d'accès?
Pas sur Internet, non. Je ne sais pas. Il faut que j'aille démarcher les chaînes.
Le problème des courts-métrages, c'est ça. C'est comment faire pour le voir?
C'est pas un court-métrage, c'est un documentaire.
De quoi ça parle?
D'enfants qui sont dans une classe dans le 18e. C'est un film social. Voilà. Comme ça, ça m'a pris comme
c'est
ça.
C'est pas ce que vous avez fait avec l'UNICEF?
Non, pas du tout. Ça, c'est autre chose. Oui.
C'est quoi c'est avec l'UNICEF?
Je suis partie au Tchad une semaine en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF et j'ai tourné un film là-bas. J'ai rencontré... voilà.
Donc il y a un autre film cette fois-ci.
Un autre film, oui. Ça, il faut que je fasse le montage et tout ça.
D'accord. Et vous devez démarcher, vous dites, les chaînes pour diffuser.
Oui, tout à fait.
En bonne productrice. C'est ça?
Oui, enfin, pour défendre une idée. Mais ce qui m'a intéressée chez ces enfants, c'est ils sont nés en France et leurs parents sont émigrés. Et ça m'a vraiment intéressée, eux, comment ils sont totalement adaptés. Et très, très libre, alors que leurs parents traînent un peu derrière. Et quelque part, c'est eux qui vont les éduquer, qui vont leur apprendre, qui vont petit à petit leur faire connaître la culture française. Et c'était très intéressant de voir ça.
Transmission à l'envers.
Exactement,
en fait.
Transmission à l'envers, oui, tout à fait. Ouais.
Raphaël Personnal et le
Personnal.
Programme.
Personnal.
Personnel. Le programme.
Le programme.
2017 pour vous.
Alors,
à part la Grèce.
Oui, il va y avoir encore un peu de théâtre en octobre-novembre au rond-point. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis, c'est pas grave, comme ça c'est dit.
Allez, hop.
Alors, une pièce adaptée d'un livre de Antoine Léris qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Voilà, donc
formidable.
Ouais, c'est un texte magnifique, bouleversant. Extrêmement sensible, fin. Donc,
c'est
voilà,
ce journaliste, hein, pour rappeler, qui après.
Qui a perdu pendant les attentats.
Ouais, les attaques de Charlie Hebdo, a perdu sa compagne et qui a eu cette réponse merveilleuse d'amour et de. Ouais, d'amour.
Exactement. Et puis,
c'était les attentats du Bataclan.
Oui, du Bataclan. J'ai pas dû chercher Charlie, pardon.
Non, l'attentat du Bataclan. Bataclan.
Et aussi, je suis dans l'écriture de mon premier film.
Yes.
Oh. Voilà.
Yes.
Mais alors, on peut en savoir un peu plus sur ce premier film?
Non.
Ah bon.
C'est dur. Alors, hein.
C'est dommage parce que j'avais une question intéressante à poser.
Ah, allez-y
pas.
Alors.
Mais non.
Bien sûr, vous pouvez en savoir plus. Si, vous pouvez savoir beaucoup plus.
C'est vrai, alors?
C'est ça, c'est dit bien.
Non, mais au moins, à quelle époque, aujourd'hui? Aujourd'hui,
oui.
Un film de genre?
Non, pas un film de
un
genre.
Un drame, une comédie?
Une comédie.
On joue à ni oui ni non ou
Non.
Mais... Une comédie d'aujourd'hui, ça en dit long quand même, arrêtez.
Mais c'est vrai, c'est
merci,
sûr.
Merci, Alison.
Toi, tu veux un rôle, toi?
Je l'ai déjà.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boded.
Laetitia Raphaël, je vous sors de la promo, c'est notre brouillon de culture, un petit bol d'air histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Laetitia.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse et surtout un retour à des tendances jusque-là un peu oubliées, c'est-à-dire la simplicité, le naturel, la souplesse. Il n'y a pas tellement de lignes dans ma collection, c'est justement un des faits les principaux. Jusqu'à présent, la mode s'encadrait dans une forme purement géométrique ou un dessin.
Bon, j'ai cru que c'est Frédéric Mitterrand au début, mais ça ne va pas être ça.
Cette fois-ci, il y a un laisser-aller, une souplesse, un naturel. Je pense que la ligne se perd au profit d'un style cette saison.
Vous l'avez reconnu, c'est la voix d'Yves Saint-Laurent. Né en 59, il présentait sa troisième collection chez Christian Dior à l'époque. C'est une rencontre importante, je crois, dans votre vie, Laetitia Casta, parce qu'il a vu en vous l'avenir, en fait.
Oui, c'est vrai. Lorsqu'il dessinait, il me faisait jouer des rôles. Il me disait, il faisait son dessin comme ça, et il se mettait en scène, il me mettait en scène. Mm-hmm. Et il me disait, plus tard, tu seras actrice. Et d'ailleurs, j'étais un peu vexée parce que lorsque les mannequins défilaient, elles avaient tout un numéro, et moi, j'en avais pas, et je voudrais un numéro. Et en fait, non, il me laissait une grande liberté, et c'était très beau.
Il disait qu'il n'aimait pas les mannequins.
Non,
ouais.
Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il aimait les femmes, vraiment femmes.
Pas les formatages de corps de femmes qui correspondraient à une forme de vision canonique.
Au contraire, il était très, très avant-gardiste. Ça a été le premier à faire le smoking pour femmes. Ouais.
Puisqu'on parle des mannequins, le métier évolue comment à vos yeux? Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites pour lutter contre l'anorexie chez les mannequins. J'imagine que vous cautionnez ce genre de campagne anti où des jeunes filles se détruisent pour rentrer dans un format un canon de beauté.
Oui,
c'est
déjà à l'époque, quand j'ai démarré, les femmes avaient des formes, elles avaient aussi de la personnalité, parce que ça c'est important de le dire, elles pouvaient s'exprimer, elles étaient toutes très différentes, toute cette époque de Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, etc. Elles venaient avec leur personnalité. Aujourd'hui, je trouve qu'une mannequin va durer un an et puis on n'entend
pas parler.
Moins
longtemps, c'est ça. Il y a moins de carrière, c'est vrai.
Et ce qui me choque le plus, c'est qu'elles ne s'expriment pas. On ne sait pas réellement qui elles sont, en fait. Je trouve ça terrible. Et puis, pour l'anorexie, oui, elles sont extrêmement minces. Moi, en tant que femme, je ne me reconnais pas du tout dans ces femmes-là.
Il y a un truc qui est honteux en ce moment sur Internet, je ne sais pas si vous avez vu ça, où les jeunes filles se prennent en photo avec une photo, avec une page A4, en fait, et leur taille doit rentrer dans la page.
C'est-à-dire qu'elles
mettent la feuille devant... leur buse et elles ne doivent pas dépasser de la page.
Mais quelle horreur.
Ouais, c'est un truc monstrueux et c'est ça pousse tout le monde à l'anorexie. Non,
c'est tu vois 21-29-7, c'est foutu quoi.
Alors il faut pas le mettre à l'horizontale.
Voilà. C'est impossible.
Faut prendre le plus petit.
Non, mais c'est comme si d'un coup, si vous voulez, des grands couturier comme Yves Saint Laurent, il aimait vraiment la femme avec sa personnalité. Et là, j'ai l'impression que c'est le vêtement qui prend le dessus, ou c'est le sac à main qui prend le dessus. C'est-à-dire, c'est l'idée, c'est la vente, la vente, la vente, la vente. On n'est plus dans une idée de, voilà, de talent, de poésie et de vouloir être visionnaire. C'est plus une idée de formatage, même dans les femmes, même dans
les vêtements. Vous êtes encore égérie d'une marque ?
Oui.
Et vous leur parlez, vous leur dites ça ?
Bien sûr, quand ils viennent vers moi, ils réfléchissent sur ce que doit représenter la femme de leur marque. Bien sûr, c'est une image quand même qui se traduit avec une marque, mais c'est intéressant d'avoir une pensée derrière. D'ailleurs, quand on vient vers moi, c'est pour ça. Et c'est très important, parce que l'image qu'on véhicule a quand même du sens. Ça, c'est une résonance, on ne peut pas faire n'importe quoi. On parle aux gens.
Et vous étiez, pour revenir à Yves Saint Laurent, vous avez chanté lors de son défilé d'adieu. C'était un joli moment. Vous avez chanté avec Catherine Deneuve. Qu'est-ce que vous retenez de ce jour-là ? Parce que c'est quand même maintenant que Yves Saint Laurent n'est plus parmi nous.
C'est tout son travail et c'est le travail de toute une vie avec un talent immense. Mais Yves Saint Laurent, c'était pas que ça. C'était aussi justement, il dessinait, il écrivait, il était tellement ouvert à tout. Voilà, c'est quand on rencontre un homme comme ça dans sa vie, on sait qu'il n'y en aura pas un deuxième.
Il n'y a pas eu d'autres rencontres aussi marquantes qu'Yves Saint Laurent. Ouais.
Franchement, enfin, des fois, j'ai une sorte de nostalgie terrible ou de mélancolie où je suis mal dans ma peau parce que je repense à cet homme et j'ai une profonde tristesse parce que voilà, il me manque terriblement. Ouais, vraiment. Quand je l'ai rencontré la première fois, ça a été une révélation. C'est comme une histoire d'amour. Mmh. Il m'a regardée, mais autrement. Il m'a offert ma première rose de féminité. Et c'était un homosexuel. Il m'a regardée vraiment avec des yeux d'amour. Mais c'est rare, hein. C'est très important dans une vie.
On continue avec vous, Raphaël.
Pour vous la faire très très vite, René Girard a vu une théorie selon laquelle les groupes humains se soudent autour du rejet de l'un d'entre eux, qui est censé incarner tous leurs défauts. Ce sont les origines du christianisme, etc. Et l'ayant lu, je me suis dit, ce serait formidable d'imaginer un personnage qui soit salarié, explicitement salarié, pour se faire engueuler à la place des autres. Ça, c'est la première naissance de Malocène.
C'était ici.
C'est Daniel Pénac à ce micro qui nous explique la naissance du personnage bouc émissaire, Malocène, à partir de ses lectures de René Girard. Vous avez incarné Raphaël Persona dans Au bonheur des ogres, l'adaptation de ce bouquin de Pénac. Ce Malocène, ce personnage maladroit, en haut en couleur. Je me demandais dans quelle mesure ce personnage n'est pas un peu proche de vous dans la vie. Est-ce que vous avez quelques traits de caractère en commun avec ce Malocène ?
Bouc émissaire ? Non, alors bouc émissaire, je pense pas.
Plus jeune, non, plus jeune. Non, dans le côté maladroit, plus jeune.
Mais c'est scandaleux, Leïla. C'est bien comme ça.
Vous le jouez moyennement. Mais vous n'avez pas honte. Vous le jouez moyennement.
Quelle indignité. Les traits de caractère en commun avec Malocène. Non, le côté bouc émissaire, non, je l'ai pas, mais j'aime bien. C'est un chef de tribu aussi, maladroit, ça c'est sûr, qui déborde d'affection, qui sait peut-être pas bien faire dans les règles, mais c'est ce qui le rend un peu à part. Moi, j'aimais bien aussi chez ce personnage. C'est un personnage qui travaille dans un grand magasin où tout est très formaté, tout est organisé, et lui c'est le petit bâton dans la roue, quoi. J'aimais bien ce côté-là.
Alors, hors temps, hors époque.
Ouais, complètement. Ouais, il est complètement à côté de ses pompes. Oui, peut-être que c'est moi, les gars. Vous avez raison, vous m'avez percé.
Du coup, ça m'interroge aussi sur votre rapport à la lecture, puisque Pénac vient de sortir un dernier opus tant attendu de la saga Malocène.
Je l'ai pas lu.
Le cas Malocène.
Le cas Malocène, absolument, ils m'ont menti. Je voulais savoir à peu près quel genre de lecteur vous étiez. Est-ce que vous êtes plutôt versé dans les romans, dans les essais, je crois aussi. C'est un truc qui vous intéresse bien.
Oh, les questions.
Ouais, j'essaie de savoir un peu plus.
Je suis un très mauvais
vous.
Lecteur. Je vais vous dire, en fait, je ouais. suis quelqu'un qui, quand il rentre dans une librairie et qu'il voit un libraire ou une libraire, je vois tout de suite dans ses yeux la personne qui se dit ce type-là est vraiment, n'y connaît absolument rien.
Ou
quand
a besoin, ou a besoin de conseils.
Ou a besoin de conseils. Bah oui. Mais j'ai, tiens, encore un problème de légitimité. Bah oui. Donc je suis un lecteur intermittent. C'est-à-dire que j'ai des grandes périodes où j'ai besoin d'avaler vraiment énormément de livres et d'autres où je suis en diète totale.
En fait, personne, vous êtes mal dans votre peau.
Oui.
Et vous lisez quoi en ce moment,
Mais là,
Raphaël?
Je me sens très bien.
Et vous lisez quoi en ce moment, Raphaël?
Je viens de finir Sylvain Tesson sur les chemins noirs.
Voilà. Et oui, alors?
Moi, je trouve que c'est son meilleur parce que, au-delà du voyage qu'il fait, c'est surtout le voyage intérieur aussi qui est mêlé à ça. Je trouve que c'est son livre sans doute le plus personnel et qui m'a vraiment, il m'a bouleversé. Alors, je le connais maintenant, mais il a une forme de pudeur dans la vie et là, il s'est vraiment dévoilé, mais toujours à sa façon, sans se dénaturer.
Eh bien, je finis avec un cadeau pour chacun, des bouquins. Voilà,
oh, c'est gentil.
Pour vous, Laetitia, ça vient de sortir chez Point. C'est Gainsbourg confidentiel, Les mille et une vies de l'homme à la tête de chou. C'est signé Pierre Mikhailov. Alors, je sais que vous connaissez beaucoup de choses de la vie de Gainsbourg puisque vous étiez dans le biopic de Johann Sfar. Là, c'est son portrait aussi où on découvre pas mal de choses sur ce côté peintre contrarié. C'est l'auteur, c'est l'ex-guitariste de Jacquenot qui s'y est collé et c'est vraiment assez impressionnant comment il retrace le portrait de cet homme très, très, très varié. Et pour vous, Raphaël Persona, c'est Gilles Scott Heron. La dernière fête, c'est chez Point aussi. C'est un musicien et c'est un écrivain noir américain qui a toujours associé dans sa révolution mentale la musique, la littérature et la société. Il a fini, clochardisé et complètement camé, mais tous les rappeurs du monde entier s'en revendiquent parce que c'est lui qui a influencé le mouvement du spoken word.
The revolution will not be televised.
Yes.
C'était un super titre.
Et ben voilà, c'est pour vous.
Merci, Leïla. Deux excuses à présenter, Guillermo.
Oui, désolé pour Laetitia Casta, Calbert Algou a confondu un moment avec la vraie Arletty. Faites gaffe parce qu'Albert m'a dit à la pause qu'il allait essayer de vous tondre à la sortie. Ne traînez pas. Désolé pour nos auditeurs qui se sont sentis mal dans leur peau en entendant Nagui dire à Laetitia Casta qu'elle était mal dans sa peau alors que Laetitia disait qu'elle était pas si mal dans sa peau alors que Nagui lui a vraiment dit qu'elle était vraiment pas bien dans sa peau. Du coup, moi, je me sens pas vraiment bien dans ma peau. Voilà, allez, bonne journée.
Scène de la vie conjugale, c'est le théâtre de l'œuvre. Merci en tout cas d'avoir
pris
ce micro. Demain, Rachida Brakni et Fabienne Bab seront nos invités pour De Sas en Sas, un très beau film, huis clos. Et l'enfer, c'est les autres aussi dans ce film. On en parlera demain. Et ce sont les carnets de campagne maintenant, pardon pour ce retard.